Chapitre 57. Loin de la ville, au bout d'une route que la modernité n'a toujours pas rattrapée, se cache une modeste maison basse, tout en longueur, blottie dans son écrin de verdure entre glycines et rosiers grimpants. Ce n'est pas un souvenir, puisque je peux encore m'y rendre, mais c'est presque un vestige, le dernier lieu de mon enfance qui soit encore dans la famille. Lorsque l'on se gare devant, juste après le bruit des roues sur le gravier, on perçoit le murmure de la rivière en contrebas. Pour pénétrer dans ce paradis, il faut d'abord passer sous l'arche taillée dans une haie plus dense qu'un mur qui sert de refuge aux mésanges et aux moineaux piaillants. Ensuite, il faut emprunter le chemin de dalles d'ardoise. Pas une fois je n'ai posé mes pieds en dehors. Au terme de ce périple quasi initiatique, il est temps de baisser la tête pour franchir le seuil de la petite porte de la cuisine. Un intérieur qui n'a pas changé, simple, comme au temps où le superflu restait dehors. Tata Chantal et tonton Roger ont toujours vécu ici. Roger était le frère de mon père. À force de croire qu'il était toujours l'heure de l'apéritif, la cirrhose s'est invitée pour boire un verre avec lui et elle est partie en lui laissant régler l'addition. Depuis, Chantal reste seule dans le théâtre de leur histoire. J'ai vécu pas mal de choses ici, autant que dans la maison de mes grands-parents. De mémorables repas de famille, pas mal de Pâques, le baptême d'un cousin, les fiançailles de je ne sais plus qui, et quelques anniversaires de mariage. L'été, nous profitions surtout du jardin, qui surpassait en superficie tous ceux que nous connaissions. De vastes espaces dégagés où nous pouvions nous ébattre, cernés de profonds taillis où il était possible de se perdre et, surtout, de s'inventer des mondes. De nombreux temps forts sont rattachés à ces lieux, semés de tant de repères permettant de mesurer à quel point mon frère et moi devenions sans cesse plus grands, capables du meilleur comme du pire. Les premiers arbres dans lesquels je suis grimpé, nos premiers cache-cache, notre première nuit à la belle étoile, mon premier lance-pierre, et moins d'une heure plus tard, ma première vitre brisée, du coup, l'une des plus grosses gifles que ma mère m'ait jamais administrée. Ce matin, Tata Chantal s'est inquiétée de me voir débarquer avec quatre paysagistes et leur grosse camionnette remplie de matériel. Suivant le partage, souvent en vigueur dans leur génération, Chantal assurait le ménage dans la maison et Roger s'occupait de l'extérieur. Depuis 3 ans qu'il n'est plus là, ma tante assiste peu à peu à la lente dégradation de tout ce que son mari s'appliquait à entretenir avec tant de soin. À chacun de mes appels, elle me répétait qu'elle n'osait même plus regarder par les fenêtres, tellement l'état de son grand jardin la peinait. Alors j'ai décidé de lui offrir la remise en état complète. Après quelques heures du vacarme des machines, le résultat se dessine et Chantal va de mieux en mieux. Elle renaît littéralement. Elle parle aux ouvriers, leur raconte ses histoires, leur explique comment c'était quand toute la famille se réunissait là. Accessoirement, elle les abreuve aussi de café. Je pense qu'avec ce qu'ils ont déjà avalé, ils sont tellement énervés qu'ils ne devraient pas tarder à se battre. Je la laisse s'occuper avec eux, papillonner d'un lieu redevenu praticable à un autre, pas mécontent de pouvoir profiter de l'endroit à ma façon. Pour ce qui est de la taille, de la tonte et du binage, je fais confiance aux pros. Mais je me suis gardé un modeste chantier que je n'aurais délégué à personne. Ma boîte à outils à la main, je sors côté jardin, à l'arrière de la maison. À la faveur d'un des rares moments où aucune machine ne tourne, je savoure l'instant. La lumière, le calme, un parfum intemporel. J'inspire paisiblement, à plein poumon, en fermant les yeux, comme pour effacer ce qu'ils ont vu du monde. Une façon de partir ailleurs, de revenir en arrière, en espérant qu'en les rouvrant, je me réveillerai de mon cauchemar. C'est un matin de printemps bien réel. Le ciel est dégagé. Je contemple le vaste jardin qui s'étire en pente douce jusqu'à la rivière. Les longues branches des saules, ondule dans un vent léger. Même ces arbres noueux et torturés semblent tout droit sortis d'un conte. La corde qui nous servait à sauter dans l'eau y pend toujours. En retrait des berges, pommiers, poiriers et cerisiers attendent les premières chaleurs du printemps pour fleurir. La pelouse, tout juste tondue, me paraît aujourd'hui moins vaste que lorsque j'y ai fait, m'a-t-on dit, mes premiers pas. Mais elle est toujours assez large pour jouer sans avoir de limite. Ici, le temps semble s'être arrêté. Chaque élément avec lequel j'ai grandi est à sa place. Le décor est là, simplement privé des quelques grands rôles qui ont quitté la scène. Direction le potager. Je n'ai jamais eu le goût de la culture, mais j'étais heureux d'aider lorsque nous venions. J'ai cependant un souvenir très précis de la petite barrière en bois qui entoure les plantations aujourd'hui à l'abandon. Un minuscule portillon, tout juste bon à arrêter les ragondins remontant de la rivière pour piller les légumes. Je me souviens encore de ma fierté lorsque j'ai réussi pour la première fois à en actionner le verrou coulissant rouillé. Un pouvoir de plus. Pour y parvenir, j'avais dû y mettre toutes mes forces. Mes doigts étaient salis de poussière brune et ma peau rougie par l'effort. Julien était avec moi. L'un de ces minuscules dépassements de soi qui nous indiquent que nous grandissons et augmentent notre confiance en nous-mêmes. La barrière n'est plus en très bon état et le portillon a besoin d'être réparé. Le verrou coulissant est aujourd'hui à demi décroché parce que les vis rongées par la rouille ne le tiennent plus. C'est lui que je veux fixer. Je lui dois bien ça. Comme une métaphore de ce que j'accomplis ici. Redonner un peu d'avenir à ce qui m'a aidé à écrire ma propre histoire. Roger serait tellement heureux de te voir arranger son potager. Concentré sur le verrou, je n'ai pas entendu Chantal approcher. Et toi, es-tu heureuse? Comblée. Je te remercie, Adrien, mais c'est une folie. Le travail de ces jeunes gens doit coûter une fortune. Ne te soucie pas de ça. À partir de maintenant, ils viendront régulièrement et tu pourras profiter de ton jardin. Merci. Tu sais, je n'arrivais même plus à descendre jusqu'à la rivière. Si tu veux, nous irons ensemble tout à l'heure. Mais ne t'aventure pas sur le ponton, il faudra le renforcer avant qu'il redevienne praticable. On s'en occupera bientôt. Elle regarde en direction de la berge. « Vous en avez fait des bêtises avec ton frère sur cet embarcadère. » Ailleurs aussi. La voilà qui repart déjà vers l'un des ouvriers. Je l'entends lui parler du lait de chaux dont mon oncle badigeonnait les arbres fruitiers pour les protéger des parasites et des champignons. J'avais oublié tous ces troncs peints en blanc jusqu'à leurs premières branches. Le bois du portillon est loin d'être pourri. Une fois les vis changées, je graisse le verrou. En l'actionnant plusieurs fois, il fonctionne impeccablement. Le même objet, 20 ans plus tard. C'est étrange. Savourant le bonheur de le voir à nouveau en état, je réalise son importance symbolique. Je m'assois dans l'herbe et m'adosse à la barrière. Je caresse la pelouse encore chargée de rosée. J'observe le jardin et des images me reviennent, se superposant au paysage qui s'étend devant moi. Comme si je voyais défiler ma vie. Il paraît que c'est ce qui se passe quand la fin approche. Si je ne craignais pas de peser sur Chantal, c'est ici que j'aimerais m'éteindre. Boucler la boucle, arrêter là où tout a commencé. Je n'y serai pas seul. J'entends encore le rire de mon père se mêlant au nôtre.